Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. Je faisais mes exercices de diction avant d'entrer en onde parce que j'ai pas dormi beaucoup. Je suis allée voir une pièce qui m'a quand même donné beaucoup, beaucoup d'énergie. Agamemnon. Je vous en reparlerai un peu plus tard au cours de cette émission, mais c'est vraiment une pièce qui m'a mis KO dans le bon sens du mot. Alors, aujourd'hui, Mathieu, ça va?
Ça va très bien, merci.
Oui, vous aussi, vous faites vos exercices de diction avec un crayon dans la bouche.
Exactement.
C'est quoi votre exercice de diction, vous, votre
c'est
phrase?
C'est le HB.
Non, non, je sais, mais votre phrase fétiche, fruit cuit, fruit cru,
non,
je veux, j'exige et j'exagère.
C'est celle avec Jésus et Joshua que je suis incapable de dire.
Bon.
Monique, aide-moi.
Monique, la connaissez-vous celle-là? Monique Kirouac, bonjour.
Bonjour. Jésus et Joshua, non. Je connaissais les petits pots de beurre, mais pas.
Oui. On s'embarquera pas là-dedans.
Et non.
Les fameuses chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Bon. Mathieu, il cherche la phrase avec Josué. Yvan rigole. Alors, ça commence comme ça. Oui?
Ben, je me demandais pourquoi Mathieu avait besoin de pratiquer sa diction.
Parce que j'en ai de besoin.
Oui, il en fait de la radio, lui. Il présente les chansons, puis quelquefois, on jase ensemble.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
oui.
Je retiens ma question.
Oui, bien, c'est pour
ma question taquine.
Oui. Alors, tant qu'à être taquin, vous allez parler du judo aujourd'hui? Un lien par rapport, mais enfin.
Un peu de judo, beaucoup de chutes. Et pas nécessairement de chutes en judo, mais de chutes de tous les jours. Surtout pour les personnes âgées. On annonce très froid cette fin de semaine. Donc, ça se peut que il n'y a pas de neige sur les trottoirs. Fait qu'on peut supposer qu'ils ne seront pas très, très glacés. Mais on a un hiver qui est propice aux chutes. Les chutes pour les personnes âgées peuvent avoir plusieurs conséquences. Alors, c'est surtout de ça dont je vais parler.
Oui, le judo qui apprend finalement aux aînés à mieux tomber.
Exactement. Et moi, j'ai fait du judo quand j'étais beaucoup plus jeune et je retiens deux choses. D'abord, d'utiliser la force de son adversaire pour pouvoir le maîtriser. Et deuxièmement, apprendre à tomber. Donc, j'ai appris rapidement à faire une petite boule de moi-même et à rouler quand je tombais. Donc, c'est un peu l'esprit qui est présenté dans ce programme-là. Et ça va j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant. Je l'ai même envoyé à certains endroits.
Ah oui, bonne
oui,
idée.
Ben, au centre épique, entre autres, où je vais, où la clientèle est de personnes âgées actives. Je pense que ça peut être un bel endroit pour faire une chose
oui.
comme ça.
Et vous avez eu l'heureuse idée de partager ce texte avec les auditeurs et auditrices de Canal M autour de 9h45.
Aussi.
Monique, vous allez parler de protéines, vous?
Oui, exactement. J'ai retenu un article qui a été préparé par le professeur en kinésiologie et spécialiste de la santé du muscle squelettique, Stuart Phillips, qui nous dit que 2025 n'a pas été l'année où les protéines ont enfin obtenu la reconnaissance qu'elles méritaient, mais que c'est plutôt l'année où elles ont été survendues, surestimées et surmédiatisées. Alors, il nous explique dans cet article clairement le rôle des protéines et surtout la quantité requise pour maintenir une bonne santé.
On sera à l'écoute. Merci beaucoup, Monique. Alors, allons-y avec la phrase tant attendue, Mathieu.
Non, mais ça, c'est me faire souffrir. C'est « Jésus loge chez Zachée, chez Zachée loge Jésus ».
C'est parfait!
Vous
l'avez
oui,
eu!
Le choix.
Merci. Et Monique, il y aura aussi la capsule linguistique. Hein?
Oui, j'ai retenu votre demande, Hélène.
Oui, alors ce sera excessivement intéressant, j'en suis convaincue. Merci d'être avec nous. Et puis aussi, j'aurai le plaisir de parler avec Brigitte Poupard, cette comédienne, metteur en scène, réalisatrice qui nous propose « À travers tes yeux ». C'est un film documentaire absolument poignant qu'elle a réalisé avec sa fille Fabiola Pierre-Monti. Et on commence avec Zaz en nouveauté. On écoute la chanson « Mon sourire ».
« C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres, c'est pas parce que je tente de caresser mes rêves, que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle. Comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis si je tombe, je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse. Bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS. Mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non. Je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien. Nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis et ça en vaut la joie. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et tant pis si j'y perds. C'est pas parce que je ris que j'en oublie nos peines, pas parce que je souris lorsque je monte en scène que je reste insensible aux laideurs de ce monde. J'aime me dire que la vie est un cadeau du ciel, et je danse sous la pluie comme une enfant rebelle, et je chante l'embellie lorsque le tonnerre gronde. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à faire l'amour en temps de guerre. C'est ainsi que j'espère.
C'était Zaz et la chanson « Mon sourire ».
Oui, le devoir à sa une, l'interdiction des signes religieux, un frein à l'accès aux écoles alternatives. Zachary Goudreau qui signe le texte « L'interdiction de porter un signe religieux imposé au personnel scolaire risque de faire particulièrement mal aux écoles alternatives du Québec puisque cette directive s'applique aussi aux bénévoles. C'est ce qu'a appris le devoir, c'est que dans ces établissements, l'implication des parents dans la classe de leurs enfants est obligatoire. Le 30 octobre dernier, le gouvernement Legault a fait adopter son projet de loi 94 qui visait à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois. Depuis, les élèves doivent fréquenter leur école à visage découvert, tout comme l'essentiel du personnel scolaire. Il est par ailleurs interdit aux employés de porter un signe religieux, une directive qui s'étend à toute personne qui fournit régulièrement des services entre les murs d'une école, peu importe leur nature, ou encore qui fournit des services aux élèves, même de façon ponctuelle et gratuite, ainsi pour fournir bénévolement des services dans l'école de son enfant dans l'une ou l'autre des situations qui précèdent. Le parent doit respecter l'interdiction de port de signes religieux. C'est ce que confirme le ministère de l'Éducation. Une clause de droit acquis s'applique cependant aux parents qui fournissaient déjà bénévolement des services dans l'école de leur enfant avant le 30 octobre 2025, sauf si l'entente en vertu de laquelle ces services sont offerts est renouvelée après cette date, ils devront alors retirer leur signe religieux ou cesser de s'impliquer dans leur école. Ailleurs, dans le réseau scolaire, si le bénévolat des parents n'est pas obligatoire, il est souvent encouragé, rappelle la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. L'interdiction du port de signes religieux, ça affecte ainsi la bénévole à la bibliothèque, les parents qui viennent le matin au club des petits-déjeuners, mais également ceux qui donnent à l'occasion des ateliers en classe ou encore qui lèvent la main pour accompagner des élèves dans le cadre de sorties scolaires. Ça complique les choses pour les élèves, alors que clairement, ça n'était pas un problème, déplore Mme Legault. Mme Legault qui ne cache pas son opposition à cette directive. Aussi, à la une du devoir, le Il est le devoir en Abitibi-Témiscamingue. Jasmine Legendre, la fonderie Horn menaçant de fermer, tous espèrent encore une solution conjuguant respect de l'environnement, santé publique et économie locale. Au lendemain de la menace de Glencore de mettre la fonderie Horn à l'arrêt si aucune entente n'est conclue avec le gouvernement Legault, Juan Oranda retient son souffle. Impossible ici de ne pas penser à 1976 quand la mine Horn a cessé ses activités. 50 ans plus tard, à l'approche de son centenaire, c'est maintenant la fonderie qui est menacée. Depuis qu'il a été révélé en juillet 2022 que l'air de Juan Oranda était pollué par une concentration d'arsenic allant jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube, les citoyens ont en tête le possible scénario d'une fermeture de l'usine si elle n'arrive pas à se conformer aux normes québécoises qui sont établies à 3 nanogrammes par mètre cube. Le gouvernement avait ensuite, dans un premier temps, demandé à Glencore de réduire 15 nanogrammes mètre cube d'ici mars 2027. La multinationale demande maintenant 18 mois de plus pour s'y conformer, en plus d'assurance qu'elle n'aura pas à descendre sous le seuil des 15 nanogrammes mètre cube d'arsenic dans l'air avant 2033. Devant l'absence de réponse du gouvernement québécois, Glencore a décidé d'abandonner ses projets d'investissement de 300 millions de dollars qui sont nécessaires pour se conformer aux normes québécoises et prévoit fermer la fonderie Horn d'ici un an. À la une du Journal de Montréal, mère monoparentale menacée d'éviction, dossier gênant pour un député et son épouse. C'est un texte d'Anne-Caroline Desplanques. Une mère monoparentale se bat depuis 4 ans contre un député libéral fédéral de Montréal et son épouse qui tente par tous les moyens de l'évincer de son logement. « Mon appartement, mon quartier, c'est mon équilibre. J'y réside depuis la naissance de ma fille. » Son école est au bout de la ruelle. Ce sont nos repères, explique Tiffany Janot, qui vit depuis 2016 dans un triplex du quartier Villeray. Samir Zuberi, député libéral de Pierrefonds-Dollard depuis 2019, a acquis l'immeuble avec son épouse Wokar Une Niza Malik en janvier 2021, d'après l'acte de vente consulté par le journal. Madame Janot est convaincue qu'ils veulent la mettre à la porte afin d'augmenter le loyer. Ils ont d'ailleurs profité du départ de ses voisins du dessus pour gonfler considérablement les mensualités. Les nouveaux locataires payent 600 $ de plus qu'elle pour un appartement similaire au sien. Contacté par le journal, le député Zuberi, dont le gouvernement a été élu sur la promesse de lutter contre la crise du logement, il a rejeté toute responsabilité. Il a déclaré par la voix de son adjoint ne pas être propriétaire de l'immeuble où réside Mme Janot. En novembre 2024, M. Zuberi a cédé sa part de l'immeuble à son épouse. Il lui a aussi cédé ses parts d'un autre immeuble de 4 logements que le couple a acquis dans le quartier Verdun en décembre 2021. Et finalement, à la une de la presse plus, une histoire de confusion, d'excès de zèle peut-être, arrêté à tort, expert en sinistre, une plainte de la Caisse des Jardins de Trois-Rivières contre un expert en sinistre qu'elle soupçonnait de fraude a mené à son arrestation au moment où il tentait d'encaisser une généreuse commission pour avoir découvert une erreur de calcul de 105 000 $ commise par Desjardins Assurance. La Caisse des Jardins a fait arrêter Olivier Hamel sous des allégations de fraude basées sur des conclusions qui apparaissent mensongères, entre guillemets, vient de conclure le comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages. C'est du mauvais cinéma, a commenté le président du comité de discipline, maître Daniel Fabien, au sujet de cette arrestation. L'expert en sinistre soupçonné de fraude a plutôt rendu des services exceptionnels à ses clients victimes d'une erreur de calcul de Desjardins, conclut-il. Le comité vient d'acquitter Olivier Hamel de l'accusation déontologique d'avoir reçu une commission de 35 000 $ disproportionnée aux services rendus. Un article qui vous a intéressé, Yvan, qui va certainement intéresser nos auditeurs et auditrices, du judo pour apprendre aux aînés à mieux tomber.
Oui, c'est un article qui a été publié le 1er février donc il y a quelques jours, par Marie-Ève Cousineau et Alain Roberge. C'est un dossier avec deux onglets. Le dossier s'appelle « Judo pour apprendre aux aînés à mieux tomber ». Ça dit « Les chutes se multiplient avec notre hiver en dentifrice pour prévenir les fractures. Des judokas enseignent aux aînés la base de leur sport, c'est-à-dire bien tomber. » Une initiative qui pourrait faire des petits à l'échelle du pays. Alors, le premier article, le premier onglet s'intitule « Si on n'accepte pas la chute, c'est là qu'il arrive des blessures ». On parle d'une personne qui s'appelle Michel Descoteaux. Il a 80 ans. Il a fait 3 chutes sur la glace depuis Noël. Il s'en est tiré sans fracture et avec un seul bleu. Maintenant, il veut mettre toutes les chances de son côté. Alors, depuis quelques semaines, il suit avec sa femme un cours sur l'art de bien tomber au club de judo de Blainville. Et il dit « Je suis fatigué après ». Faut savoir que M. Descoteaux, c'est un homme à l'air doux, qui est amateur de quilles, de ski de fond et de vélo. Donc, c'est pas tant des exercices pour tomber, se relever qui fait normalement. Alors, ici, dans le dojo, il n'y a pas de kimono ou de combat sur le tatami. Ça, oubliez ça, c'est pas ça. Qu'une vingtaine d'aînés, surtout des femmes, qui marchent en chaussettes sur des tapis bleus épais en guise d'échauffement. Et là, c'est Abdel Benomar qui est l'entraîneur, qui est un entraîneur de judo, qui est solide sur ses pieds. Il leur dit, quand vous marchez, vous levez les pieds. Vous ne les traînerez ici, vous ne le traînerez pas. Vous ne traînerez pas votre pied. Pendant 10 semaines, ce judoka de 73 ans, qui est une ceinture noire quatrième dan, donc c'est quelqu'un qui maîtrise très, très bien son sport, qui met encore au tapis des jeunes de 16 ans, il enseigne aux aînés la base de son sport, comment tomber sans se blesser. Après quelques flexions sur jambes, communément appelées des squats, les aînés s'entraînent pendant près d'une heure à rouler vers l'arrière, sur le côté, avec un gros ballon et par en avant. Des exercices qui peuvent donner le tournis, mais qui sont faits en douceur et à leur rythme. Pour plusieurs, il s'agit d'un défi. C'est plus difficile de m'abaisser que de me laisser aller par en arrière pour atterrir sur les fesses au lieu du dos, explique toujours M. Descoteaux, le monsieur de 80 ans du début, qui s'assoit pour prendre une pause vers la fin de la séance. Craintive, Mme Constance Renaud, qui elle a 76 ans, tient les mains d'un entraîneur lorsqu'elle s'exerce à chuter vers l'arrière. C'est la peur de me laisser aller, explique la dame aux cheveux blancs bien coiffés qui participe au cours avec des amis d'un groupe de danse. C'est le contrôle qu'on veut tout le temps avoir. On a de la misère avec le lâcher-prise. Alors, au Québec, il y a 6 clubs de judo qui offrent aux aînés des cours sur la prévention et le contrôle de la chute, et ils pourraient bientôt être plus nombreux. Benoît Séguin, retenez ce nom, Benoît Séguin, judoka, ceinture noire 5e dan et ancien enseignant d'éducation physique, a développé un programme pour Judo Québec. En plus d'en enseigner les rudiments à des membres de la FADOC en Estrie, il forme des entraîneurs de judo à son approche. Une initiative inédite au pays, selon Nicolas Gill, directeur général de Judo Canada et médaillé olympique dans ce sport. Depuis cette semaine, son organisation distribue aux 3300 entraîneurs canadiens certifiés des outils de formation préparés par Benoît Séguin afin de les encourager à offrir le programme aux aînés. Et M. Séguin en question, Benoît Séguin, lui-même, il a 76 ans. Là. Et je vais vous parler des capsules qu'on peut aller voir sur YouTube. Il y a une approche très, très douce de la chute et de comment se relever. Ceux qui iront voir pourront s'en apercevoir. Et il est très conscient des difficultés des personnes âgées à pouvoir soit tomber, soit se relever. Alors, c'est vraiment une approche très, très adaptée à la clientèle. Alors, Benoît Séguin croit qu'il faut aller plus loin que juste que pour les aînés. Selon lui, les enfants devraient être initiés à son approche dès l'école primaire. Il dit, après tout, il tombe régulièrement en faisant du sport ou dans la cour d'école. Si tu ne veux pas te noyer, tu apprends à nager. Si tu ne veux pas te casser des membres, tu apprends à bien tomber.
C'est logique.
C'est sa philosophie. Car on a beau vouloir prévenir la chute, tôt ou tard, on tombera. Plaide le judoka de Sherbrooke, qui a 76 ans, comme je l'ai dit tantôt. André Morin, qui participe au cours à Blainville, est bien conscient. L'homme de 64 ans, qui souffre d'arthrose ainsi que de douleurs à la hanche et au dos, marche avec une canne. Il dit, l'hiver, c'est de pire en pire, avec les températures de verglas, d'eau et tout ça. Il nous dit ça et dans l'article, on voit sa photo, il y a une barbe blanche qui contraste avec son kangourou et son pantalon noir. J'ose penser qu'il pourrait peut-être faire un Père Noël dans le temps des fêtes. Enfin, pour les aînés, comme pour bien des gens, la chute est contre-intuitive. Selon Patrick Kearney, qui est directeur technique du club de judo de Blainville et président de Judo Québec. Le problème, si on n'accepte pas la chute, si on résiste, c'est là qu'arrivent des blessures. D'instinct, les gens lancent leurs bras vers l'arrière lorsqu'ils tombent pour essayer de se retenir. La tête percute alors le sol. Pendant le cours, les aînés apprennent à protéger leur tête en rentrant leur tête vers leur poitrine, mais aussi à se relever en appuyant une main sur le genou, par exemple. Il y a, selon M. Kearney, des personnes âgées que ça fait très longtemps qu'elles ne sont pas allées au sol. Et elles peuvent rester des heures par terre si elles n'ont pas d'aide et n'ont pas la technique pour se relever. Et moi, je sais que dans ma famille, c'est arrivé à quelques reprises. L'entraîneur Abdel Benomar simule une telle situation. Alors, incapables de se remettre sur pied, les participants doivent récupérer leur téléphone cellulaire, tomber sur le plancher ou sur la glace afin de demander de l'aide. Comment? En rampant. Le service militaire, dit-il, un petit sourire dans sa barbe blanche. À plat ventre sur le tatami, les participants tentent d'avancer grâce à la force de leurs bras et de leurs jambes. Vous avez un plancher propre à la maison? Vous devez ramper un petit peu, dit Abdel Benomar. C'est juste pour avoir un certain travail de musculation.
C'est rare. Alors, qu'on rentre quand même, hein?
Oui, c'est vrai. Grâce à ce cours, Constance Renaud réalise qu'elle n'est pas tellement en forme et qu'elle est vraiment raide. Elle était épuisée à la première séance. Ça a été épouvantable, dit-elle. Là, c'est de moins en moins. Elle a commencé un entraînement à la maison. Elle dit, j'ai commencé à m'équiper avec un tapis de pilates pour continuer un peu des exercices, pour m'assouplir un peu. Alors, est-ce que ça marche, ce programme-là? Benoît Séguin est passé maître dans l'art de la chute. Il y a près de 15 ans, il a conçu un cours pour les personnes souffrant de la sclérose en plaques. Il dit, j'ai eu de bons résultats. Depuis, il a publié 2 livres et créé un programme pour les personnes âgées pour Judo Québec. Mais son approche est-elle vraiment efficace? Des professeurs de l'Université de Sherbrooke, Jérôme Leriche et Éléonore Riesco, vont mener une étude sur le sujet l'an prochain, en 2027. Ils visent à recruter 400 participants. Leur protocole de recherche qu'ils développent actuellement prévoit un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui ne fera pas les exercices versus un groupe qui va les faire. Leur protocole de recherche qu'ils développent, d'autres recherches sur les cours donnés aux aînés par des judokas montrent, entre guillemets, des effets significatifs chez les participants en ce qui a trait à leur peur de tomber, selon M. Le Riche, qui est professeur au département de kinanthropologie. Il y avait aussi des bénéfices notables pour ce qui est de la condition physique, ajoute-t-il. Mais il y avait quand même des limites méthodologiques. Ces études, précise-t-il, comptaient un faible nombre de participants ou étaient menées par des fédérations ou les organismes qui offraient les cours. Donc, il y avait une espèce de conflit d'intérêts. L'étude des professeurs de l'Université de Sherbrooke sera financée à 50 % par Judo Québec et Judo Canada. Nous, ça a toujours été clair avec eux, notre démarche est scientifique. Si à la fin du projet, on trouve qu'il n'y a aucun effet, on ne va pas changer nos données. Donc, c'était le premier onglet de cet article qui s'appelle « Si on n'accepte pas la chute, c'est là qu'il arrive des blessures ». Il y a un deuxième onglet que je vais vous laisser lire à votre guise, qui s'appelle « Plus de chute cet hiver », qui fait l'état de la situation pour l'hiver en cours. Mais quand je l'ai lu, j'avais l'impression que je lisais la même chose que j'aurais pu lire l'hiver dernier puis l'hiver d'avant.
Un classique. Alors,
oui, c'est ça. C'est l'hiver, qu'est-ce qu'on veut. Je termine mon intervention par une gorgée.
Voilà. Je trouve ça drôle quand même, l'art de la chute. Il faut vraiment le prendre au sens propre du mot, de l'expression.
On dirait qu'on est en train de faire des blagues. Ouais. C'est la chute qui est importante. Enfin, je vous amène vers YouTube. Vous allez voir une série de vidéos. Et en fait, c'est 12 vidéos. Ça s'appelle « Comment se protéger de la chute ». Et c'est le programme de monsieur, dont j'oublie le nom, là, qui a créé le programme. Et c'est vraiment extrêmement bien fait. J'en ai regardé deux jusqu'à présent. C'est des capsules qui varie entre 7 minutes 30 et une dizaine de minutes. Et très calmement, très doucement, on nous explique comment tomber, comment déplacer nos membres, comment se relever. Marie Lalande a commencé elle-même à faire ça dans le salon chez nous. Alors, je vous le suggère, c'est vraiment intéressant, à moins que vous alliez prendre vous-même un cours quelque part dans un club de judo.
Oui, et bien moi, je vais commencer à ramper là, dès ce soir, dans mon salon. Merci, Yvan, pour tout ça. C'est bien pratique d'en apprendre plus, hein, parce que quand on n'a pas le choix de tomber, bien, c'est mieux de savoir comment le faire. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On dit où est-ce qu'on vous trouve, la ligne est fine, ouais. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir ailleurs. Que pour toi, oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'es jamais manqué d'amour. Si tu t'étends, casse dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini. Mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver. Non, j'ai des missions, et à côté sur le mur, en chaîne de fusil, pas de mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la bise. Arrête, encore l'habitude, non. Mais je veux pas te faire la vie de...
La formation Rose et la chanson L'Habitude.
Monique Kerouac, dites-nous tout ou presque sur les protéines tant aimées et pourtant.
Et pourtant, et oui. Alors, c'est un article qui a été publié, Hélène, dans la Conversation du 26 janvier 2027. 26, pardon. Je me projette. Et c'est sous la plume de Stuart Phillips, qui est kinésiologue, mais aussi responsable de la chaire de recherche de niveau 1 sur la santé du muscle squelettique à l'Université de McMaster. Alors, il y a 30 ans, lorsque Stuart Phillips a commencé à étudier le métabolisme des protéines, il n'aurait jamais imaginé qu'en 2025, il passerait l'essentiel de son temps à expliquer pourquoi consommer davantage de protéines n'est pas toujours préférable. Il faut rappeler que pendant longtemps, les protéines ont été le macronutriment discret, celui dont on présumait qu'il était forcément consommé en quantité suffisante. Les glucides ont connu leur heure de gloire, tout comme les lipides. Alors, je rappelle que les glucides, c'est les sucres rapides que l'on ingère, alors que les lipides, mais ce sont les graisses comme les huiles ou le beurre. Les protéines sont arrivées plus tard dans le cycle des obsessions nutritionnelles et M. Phillips avoue d'abord avoir apprécié l'attention. En 2025, les protéines alimentaires ont franchi pour lui la ligne qui sépare la nutrition fondée sur des données probantes d'une mise en scène spectaculaire. En 2025, également, les protéines sont devenues un nutriment prétendument universel. Protéines pour la perte de graisse, protéines pour la longévité, pour la perte de poids, pour l'équilibre hormonal, pour la ménopause, pour les personnes sous médicaments qui traitent le diabète et l'obésité, pour protéines pour les personnes qui font de l'exercice, pour les personnes qui n'en font pas. Des protéines partout et toujours avec le même refrain, plus il y en a, mieux c'est. Malgré la présence de voix influentes promouvant une consommation très élevée de protéines, les données scientifiques, elles, n'ont pas fondamentalement évolué. Ce qui a changé, ce sont les discours, leur omniprésence et leur intensité. Si les protéines sont si souvent surestimées, c'est parce que leurs effets sont bien réels, mais fortement conditionnels. Elles soutiennent la fonction musculaire et l'adaptation à l'effort, mais elles n'agissent jamais seules. Le professeur Phillips présente l'analogie suivante. Ce n'est pas la protéine qui fait le gâteau, c'est l'exercice. La protéine, c'est le glaçage, parfois même seulement les décorations. Une fois le gâteau correctement glacé, ajouter davantage de glaçage, ben ça fait peut-être plaisir aux enfants ou aux adultes qui aiment le glaçage, mais ça ne se transforme pas en autre chose. À partir d'un certain point, on ne fait plus corner. La biologie est jalonnée de plafonds d'efficacité. Les protéines n'y échappent pas. L'apport nutritionnel recommandé de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour n'a jamais eu pour objectif d'optimiser la masse ou la force musculaire, ni de favoriser un vieillissement en santé. Il s'agit d'un seuil minimal conçu pour maintenir l'équilibre azoté de l'organisme. Cet indicateur est utilisé parce que les protéines constituent la principale source d'azote dans notre alimentation. Au cours des deux dernières décennies, De nombreux chercheurs ont soutenu qu'un apport plus élevé pouvait être pertinent dans certains contextes. Un apport de 1,2 à 1,6 grammes par kilogramme, soit de poids corporel par jour, semble effectivement favoriser le maintien et l'adaptation musculaire, mais uniquement lorsqu'elle est combinée à des exercices de résistance. Or, dans l'engouement protéique de 2025, un point essentiel a été largement oublié. Il n'existe aucune preuve solide et cohérente justifiant de dépasser cette fourchette pour la majorité de la population. Oui, et ça inclut les personnes en perte de poids et celles qui s'entraînent intensément plusieurs fois par semaine. Les méta-analyses regroupant des dizaines d'études sur l'entraînement par résistance montrent de façon constante que les bénéfices des apports protéiques supplémentaires plafonnent autour de 1,6 g par kilogramme poids corporel par jour. Au-delà, ni la masse maigre ni la force n'augmentent de manière significative. Je vous dirais que la masse maigre, c'est le poids total moins la masse grasse. Et on peut pas mesurer ça soi-même. Là. C'est des appareils spécialisés qu'on peut trouver dans les centres d'entraînement, entre autres, ou chez le médecin peut-être, je sais pas, qu'on peut mesurer cette masse maigre. Ce constat ne fait pas débat dans la littérature scientifique, même si elle est devenue controversée dans l'univers des influenceurs. Les protéines, ce sont les briques. La musculation, c'est l'équipe de chantier. Alors, vous pouvez livrer des briques toute la journée, sans plan ni ouvrier, rien ne sera construit. Chez les personnes qui ne pratiquent pas d'exercice de résistance, augmenter l'apport en protéines au-delà d'un seuil minimal entraîne des changements négligeables, voire inexistants, de la masse maigre. Lorsque l'exercice de résistance est présent, un apport protéique plus élevé peut améliorer modestement les gains de masse maigre et de force, mais ses effets sont limités et atteignent rapidement un plateau. Là encore, plus n'est pas nécessairement mieux. L'enthousiasme autour des protéines a été particulièrement marqué dans les discours sur la perte de poids. On leur a prêté la capacité d'accélérer le métabolisme, de faire fondre les graisses, de prévenir la prise de poids en périménopause ou de supprimer durablement l'appétit. Ces promesses sont attrayantes, mais largement exagérées. Les protéines ne provoquent pas à elles seules une perte de poids. Celle-ci repose avant tout sur un déficit énergétique. Elle n'augmente pas de manière significative la dépense énergétique à long terme. Et si elles peuvent réduire l'appétit à court terme, ces effets s'estompent souvent avec le temps pour ne laisser qu'un bénéfice global tout à fait modeste. Sans entraînement de résistance, un apport protéique élevé pendant une phase de perte de poids a très peu d'effet. L'exercice physique demeure le principal déterminant pour préserver la masse maigre. Les protéines n'en sont qu'un complément. Alors, pourquoi cet engouement protéique s'est-il produit en 2025? L'hypothèse de Stuart Phillips, la plus plausible, est qu'il faut souvent environ 17 ans pour que les données scientifiques robustes s'infiltrent réellement dans la conscience collective et les pratiques du grand public. Peut-être alors que l'écosystème des réseaux sociaux avait simplement besoin de temps pour faire ses propres recherches, c'est-à-dire lire des articles et tirer ses conclusions, afin de rattraper ce que les chercheurs en physiologie des protéines savent depuis des décennies. Mais les réseaux sociaux ont la capacité à déformer les messages et pas nécessairement dans le bon sens. Comme une autre leçon de 2025 l'a tristement rappelé, la science, et surtout ses nuances, est rarement bien représentée en ligne. Les protéines, par ailleurs, sont importantes. Elles l'ont toujours été. Elles soutiennent les muscles, les fonctions physiologiques et la santé tout au long de la vie. De nombreuses personnes en particulier les personnes âgées ou d'un certain âge, gagneraient sans doute à consommer davantage que l'apport nutritionnel de référence, soit celle de 0,8 grammes par kilogramme corporel par jour. Mais 2025 n'a pas été l'année où les protéines ont enfin obtenu la reconnaissance qu'elles méritent. Les protéines facilitent l'adaptation. Elles ne la déclenchent pas. Elles contribuent à préserver les tissus maigres qui ne se confondent pas avec la masse musculaire lors d'une perte de poids. Mais elles ne provoquent pas la perte de graisse. Et au-delà d'un certain seuil, plus de protéines signifie simplement plus de protéines, pas davantage de bénéfices. La science des protéines n'a pas besoin d'être réinventée. Elle a simplement besoin d'être entendue de nouveau. Alors, j'espère que nos auditrices et auditeurs auront bien entendu et pourront à leur tour prendre la bonne décision à l'égard de la quantité de protéines qui seront requises pour maintenir leur bonne santé.
Message reçu, on a perdu un mot, les protéines, dis-je bien, facilitent l'adaptation. Le mot facilite a été masqué par, je ne sais trop, un problème de son quelconque. Merci beaucoup, Monique, et je retiens que la protéine, c'est pas du gâteau et que...
C'est le glaçage.
Et que les protéines sont les briques, mais la musculation, c'est l'équipe de chantier. C'est très imagé. Ça fait en sorte qu'on comprend mieux la chose. Merci beaucoup.
Oui, merci au professeur Phillips.
Oui.
She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting, but I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable, so you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time.
La chanson « Matt » de Leon Thomas.
Oui, une très belle voix. Il a chanté dimanche soir à la cérémonie des Grammy. Il était en nomination dans la catégorie Best New Artist, meilleur nouvel artiste. Il n'a pas remporté le Grammy. C'est Olivia Dean qui est repartie avec le trophée, mais cette voix est vraiment magnifique. Allons-y avec les brèves en compagnie de Monique et d'Yvan. Yvan, allez-vous regarder le Super Bowl dimanche?
C'est sûr.
Allez-vous manger végé?
Oui, il y a des recettes là-dedans qui m'intéressent vraiment beaucoup.
Oui.
Alors, je vais prendre pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et je vais probablement essayer les nachos VG et salsa verde au tomatillos. C'est sur le site Togo. Vous allez sur montougo, montougo.ca pour avoir les recettes. Alors, je vous parle rapidement de 5 recettes. Les nachos VG et salsa verde, c'est une recette qui est mise sur une salsa verde au tomatillos pour ajouter une touche acidulée parfaite pour équilibrer le fromage et les haricots noirs. On assemble, on passe au four et on met au centre de la table. Et si vous avez préparé vos nachos un peu trop vite, ben ils seront tous mangés avant le début de la partie.
Qui commence à quelle heure?
C'est autour de 18 heures, me semble.
Okay.
Absolument, c'est autour de 18 heures. Puis on se couche vers 11, vers 23 heures.
À l'heure où on commence à manger, quoi?
Non. Ah, je sais pas.
Ben, 6 heures, en principe, c'est dans la tradition, on soupe.
Ah oui, ouais. À 18 heures, oui, OK. Je pensais à 23 heures. Je trouvais ça tard. Ensuite, il y a des choux-fleurs et pois chiches rôtis à l'harissa. Ça, c'est un mélange chaud, légèrement épicé, qui apporte du caractère à la soirée. Le chou-fleur rôti devient tendre et parfumé. Mmh. Les pois chiches offrent un croquant agréable et l'harissa ajoute du piquant. Moi, j'en mets un peu plus que moi. Et on sert le tout avec un peu de yogourt citronné pour adoucir le tout. On peut aussi offrir des pommes de terre écrasées, style smash potatoes. Ces petites pommes de terre croustillantes ont tout pour voler la vedette. On les cuit. Après ça, on les écrase légèrement. On les assaisonne généreusement. Puis on les laisse rôtir jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Le résultat, des galettes croustillantes à servir avec de la sauce mayonnaise buffalo et une sauce au yogourt et aux fines herbes. Facile à préparer, facile à manger. Pour toutes ces choses-là, là, vous avez la recette complète sur le site. Boulettes de PVT à l'asiatique. Est-ce que, Hélène, vous savez c'est quoi du PVT?
Non. PVT.
C'est de la protéine végétale texturée. J'ai découvert ça depuis mon infarctus. Ça remplace la viande rouge. C'est à base de soya et on laisse tremper pour que ça grossisse. On peut faire des boulettes avec ça. Moi, je fais des sauces à spaghetti avec ça et je vous défie de trouver si c'est de la viande ou du PVT qui est dans ma sauce.
À ce point-là.
À ce point-là. Alors, vous allez voir la recette pour des boulettes de PVT à l'asiatique. Et on finit par des bouchées de sushi au saumon. C'est intéressant parce qu'on prend les algues noires, puis on les met dans des moules à muffins pour leur donner une forme. On met les cubes de saumon à l'intérieur avec de l'avocat. Et puis, eux autres, ils mettent ça dans le four. Puis là, je me dis, ben pourquoi les mettre au four? Fait que moi, je vais être tenté peut-être d'en faire chaud puis d'en faire froid pour pouvoir goûter la différence. Alors, je vous souhaite un bon appétit pendant le Super Bowl. C'est sur le site montougo.ca. Puis vous ajoutez de la bière avec ou sans alcool.
5 recettes à partager les soirs de match parce que oui, pour le Super Bowl, mais ça peut être bon n'importe quand, même dans des 5 à 7, parce que tout ça a l'air bien appétissant.
Oui, puis ça fait changement des ailes de poulet.
Oui. Monique, marche-t-on de plus en plus vite? Bien, je l'espère, paraît-il, que c'est meilleur pour notre espérance de vie. C'est ce que nous racontait Yvan récemment.
C'est vrai, tout à fait. Ben oui, c'est vrai. Et c'est 15 % plus vite en 2010 jusqu'à la fin des années 1980.
Ah.
Du moins, c'est ce qui s'est passé à New York, Boston et Philadelphie. Vous demandez peut-être pourquoi ces trois villes-là. Ben, c'est parce que ces trois villes pour lesquelles il existe des enregistrements fiables des piétons, analysés aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Les machines ont aussi calculé que le temps que l'on passe à flâner dans les lieux étudiés a été divisé de moitié, Hélène.
Oh, pourtant, le flânage, c'est tellement agréable.
Ben oui, mais justement, la fréquence des rencontres décline, ainsi que le nombre d'interactions dans les espaces publics. On conclut en disant que les rues sont donc devenues de simples lieux de passage au lieu de lieux de peut-être socialisation ou tout simplement de plaisir d'admirer notre environnement.
Où est-ce qu'on s'en va, comme dirait l'autre? Des escapades romantiques, mais on s'en va je ne sais pas où avec vous, cher Yvan.
Ben, je vais vous en nommer seulement qu'une, mais c'est sur le site espace.ca. Il y a une suggestion d'une dizaine d'endroits pour de randonnées romantiques pour le Saint-Valentin qui s'en vient. Et là, j'ai perdu. OK, je l'ai. Donc, je vais vous parler d'une balade lumineuse sur les hauteurs au sentier des Cimes dans les Laurentides. C'est près de Mont-Tremblant. C'est un endroit qu'on connaît. C'est construit sur l'ancien site de l'ancienne pisciculture. Le sentier des Cimes est un long ruban de bois suspendu au-dessus de la forêt. Sa pente est douce, c'est 6 % maximum. Et ses plateformes sans obstacle le rendent accessible à presque tout le monde. Famille, poussette, fauteuil roulant. Je pense que ça a été approuvé d'ailleurs par plusieurs organismes pour les personnes ayant des limitations pour se déplacer. En journée, la balade offre une marche paisible en hauteur jusqu'à une tour panoramique de 40 mètres qui domine les Laurentides. Mais en soirée, l'ambiance change radicalement avec Lumagica, luminosité minimale, silhouette d'arbres, silence hivernal, un terrain parfait pour une mise en lumière bien dosée. Alors, c'est pour la Saint-Valentin, ça s'en vient, c'est en fin de semaine
oui.
qui s'en vient, mais l'autre après.
Je pensais que vous alliez dire un lieu parfait pour une demande en mariage.
Peut-être.
Alors, c'est espace.ca, 10 escapades romantiques à faire au Québec cet hiver. Monique, pourquoi la laine protège-t-elle mieux du froid que d'autres matières? Belle question.
Oui, alors, ben, il semblerait parce que la laine a une capacité élevée d'absorber l'humidité de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'exothermie. Alors, par contre, Hélène, la laine offre cet avantage seulement lors des expositions brèves au froid. Quand on reste plusieurs heures dehors, il faut surtout avoir une bonne isolation pour conserver près du corps l'air chaud qu'il dégage. C'est une question de densité et d'épaisseur du tissu. À épaisseur et densité égales, ben, la laine n'a pas d'avantage sur le coton ou surtout maintenant les tissus synthétiques. La laine peut même avoir un désavantage si on fait de l'activité physique intense, là, par temps froid. Par exemple, si on fait du ski de fond, on se réchauffe très rapidement. La laine absorbe bien l'eau, mais ça sèche moins rapidement. Donc, elle garde la sueur qu'on dégage quand on est très actif et cette humidité dans la laine refroidit au contact du froid, surtout quand on fait une pause pendant l'activité physique. Alors, pour cette raison, il faut avoir une couche de tissu ne retenant pas l'eau entre la peau et la laine pour garder le corps au sec ou alors pas de laine du tout.
Mais il n'y a rien de mieux que des bas de laine d'alpaga pour regarder
oui.
Sa série préférée.
C'est vrai, mais il faut une bonne épaisseur.
Oui, une bonne épaisseur. Surtout quand on va à l'extérieur. On s'habille en oignon?
Oui, ben ça c'est très bien, mais
ouais.
Si vous préférez l'alpaga, c'est vrai que c'est très très chaud, mais faut pas avoir une simple couche. Il faut que la personne qui a tricoté à double épaisseur au moins.
Oui, mais je les porte davantage à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Ah ben là, c'est pas sur la tête, alors.
Non, ce sont des bas, ce sont des chaussettes.
Ah oui, ben oui. Vous avez bien raison, j'en porte actuellement.
Oui, ah oui, puis il y a aussi notre ami Mathieu qui était tout fier de me montrer ses chaussettes offertes par son petit cœur, sa bien-aimée, en laine de Mérino. Est-ce qu'on dit Mérino ou Mérinos?
Mérino.
Mérino, merci. Et justement, Monique, est-ce qu'on dit excessivement? Mange-t-on excessivement bien dans ce restaurant?
Bon, semble-t-il, Hélène, que l'adverbe excessivement comme synonyme d'extrêmement est critiqué. Dans son premier sens, là, excessivement, ça signifie trop.
Oui, c'est ça.
Alors, quand on dit qu'une personne est excessivement intelligente, c'est comme si on disait qu'elle était trop intelligente.
C'est un compliment, donc... bref. Elle est trop intelligente.
C'est ça. Alors, il vaut mieux dire qu'on mange très bien ou extrêmement bien dans ce restaurant et non pas excessivement bien, parce que c'est comme si on mangeait trop bien. Est-ce ouais. possible?
Excessivement, on l'utilise quand on veut dire trop. J'ai excessivement. Si j'ai excessivement mangé, ça veut dire que j'ai trop mangé.
Excessivement, oui.
Bon, c'est alors, merci beaucoup. Il y avait un autre mot qui me venait en tête dont je voulais vous parler, mais là, ça m'échappe. Oui. Mais de toute façon, on reste en communication, Monique, et je sais que vous avez aussi de votre côté de bonnes idées. Oui, c'est vrai, on a parlé cette semaine avec Mathieu, la phalle, oui. la phalle à l'air ou la phalle basse. Ça vient d'où, ce phalle? Ça fait rire, en tout cas.
Ça vient.
Oui, bien, l'origine. Puis, mais je pense que c'est du bon français. C'est du folklore, peut-être, mais c'est une expression oui. Réjouissante. Moi, ma mère me disait ça, là. « Hey, ta phalle à l'air. Mets ton foulard, oui. fille.
Mets ton foulard.
Oui, ton foulard en laine. Bon, alors, bien, merci beaucoup pour tout ça, chère Monique et chère Yvan. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine.
Avec plaisir.
À bientôt.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Clay, sa chanson magnifique.
Le long-métrage documentaire « À travers tes yeux » réalisé par Brigitte Poupard et Fabiola Pierre-Monti va prendre l'affiche au Québec le 6 février, demain, ça s'en vient très, très bientôt. Et pour en parler, je reçois avec plaisir les créatrices de ce film que j'ai eu la chance de voir, que j'ai trouvé très émouvant. Bonjour Brigitte Poupard.
Bonjour.
Et bonjour Fabiola Pierre-Monti.
Bonjour.
C'est un grand honneur de vous avoir en studio à Canal M avec nous. À travers tes yeux, c'est un très beau titre. Qui l'a trouvé?
En fait, c'est moi qui l'ai proposé, je pense, à Fabiola. Parce que comme je lui ai demandé de tenir la caméra et de filmer son retour en Haïti, donc de cadrer, de choisir les images et tout ça, pour moi, ça devenait comme une évidence. Et je me souviens d'avoir, quand j'écrivais le synopsis, ça, je me disais, ah, ça va s'appeler « À travers tes yeux » quand je suggérais le fait d'accord.
Et vous étiez d'accord, Fabiola.
J'étais d'accord.
Oui. Qu'est-ce que le film a voulu montrer, a voulu raconter?
C'est vraiment une expérience personnelle, en fait, avant tout. Un retour aux sources et une rencontre justement avec le pays, la famille. Donc, je pense qu'initialement, le projet était vraiment un projet simplement personnel.
Ça partait d'une question, hein?
Oui, c'est en fait, c'était surtout qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'étais restée en Haïti. Donc, c'était plus des suppositions. Donc, justement, quand on est allé en Haïti, on a rencontré des femmes, des jeunes femmes d'environ mon âge. Donc, c'était pour se donner une idée un peu qu'est-ce qui aurait pu être mon destin si j'étais restée là-bas.
Oui, parce que, bon, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais vous êtes la fille adoptive de Brigitte Poupart. Vous êtes arrivée très, très jeune au Québec, au Canada, deux ou trois ans. En tout cas, le film nous raconte, nous dit exactement quand vous êtes née, vous allez l'apprendre. Mais il ne faut pas dévoiler tous les punchs. Est-ce que c'est un film à punch, premièrement? Mais on est quand même captivé par l'histoire. On se demande comment ça va se développer et qu'est-ce qui va arriver, parce qu'il en arrive des choses.
Bien,
dans
on
ce
le suit
film-là.
En temps réel, en fait. C'est ça qui est assez formidable.
C'est comme du cinéma vérité.
Exactement. Bien, on vient de là, au Québec. Hein? Puis, mais c'est ça, c'est de suivre Fabiola, en fait, dans la découverte de qui elle est, du processus, en fait, de faire la paix avec ses deux identités, québécoise et haïtienne, de retrouver une famille biologique, de découvrir le pays. Et comme vous dites, il y a plein de punch, mais qu'on n'aurait même pas pu imaginer, même en fiction.
Oui. Et comment vous, Brigitte, vous avez assumé, en tant que mère, en tant que cinéaste, réalisatrice, ici, la responsabilité de mettre en image une histoire qui est vraiment personnelle, qui touche directement l'identité de Fabiola, votre fille?
Bien, en fait, je trouve que le documentaire nous permet ça. Le documentaire permet d'aller, de prendre des risques. Et de se dévoiler. Et je m'inspire beaucoup, par exemple, d'Anne-Claire Poirier qui avait fait le très beau « Tu as crié, Let me go », par exemple, sur l'assassinat de sa fille. Mm-hmm. C'est épouvantable. Et je me rends compte maintenant, aujourd'hui, que ça m'a inspirée quelque part. Ou Agnès Varda, par exemple, là, qui a écrit des choses très, très personnelles. Et donc, je trouve que prendre ce risque-là, de se mettre à nu, de se dévoiler, et ça fait écho, en fait. Ça a une résonance, en fait, je me rends compte, chez le public. Et puis, je trouve ça très important. Et Herzog disait que tous les bons réalisateurs devraient faire un documentaire entre chaque fiction. Et je trouve qu'il a raison. Parce que ça nous met dans des zones, ça nous sort de nos zones de confort.
Oui. Et comment s'est déroulé le processus créatif de votre documentaire? Est-ce que c'était une première fois que vous collaboriez ensemble?
Oui. Avec Fabiola?
Oui.
Oui. Moi, j'avais déjà fait un premier documentaire qui s'appelle « Over My Dead Body » sur le chorégraphe d'Ève Saint-Pierre.
Ça remonte à 2012.
12, exactement. Ouais. Donc, Fabiola était très petite, mais elle était quand même consciente du travail que ça demandait, parce que je dormais avec ma caméra, je partais filmer tout le temps. Et donc, ça a dû s'enregistrer quelque part dans son inconscient. Mais là, c'est la première fois qu'on collabore ensemble, et j'espère que ce ne sera pas la dernière.
Vous avez quel âge? Est-ce que c'est indiscret de vous poser cette question, Fabiola?
Non, pas du tout. J'ai 28 ans.
28 ans. Vous êtes toute jeune et vous commencez dans le métier. Vous avez étudié la direction photo, si je ne m'abuse.
Un an en photo au Cégep du Vieux-Montréal.
OK. Et puis, votre contribution au film, parce que, bon, vous allez à la rencontre de vos origines, mais aussi vous faites du travail en tant que directrice photo, en tant que co-réalisatrice, si je peux dire.
Oui, ben pour moi, c'était vraiment important, puis Brigitte aussi, et tout le monde, en fait, mm-hmm. que je sois impliquée.
Est-ce que c'est facile de vous impliquer d'une façon très personnelle et d'une autre façon professionnelle?
Oui, j'ai trouvé ça assez facile. Après, des fois, il fallait qu'on ait un peu de détachement, qu'on attende un peu certaines versions de montage parce qu'on voyait plus clair. Mais sinon, chaque étape de création, ça s'est super bien passé. Puis justement, vu que c'est mon histoire, je trouvais ça important de, d'être présente aussi, puis d'être en accord aussi avec le résultat.
Mmh. De contrôler le narratif un peu, tu sais, je trouve ça très important. Puis ça fait des œuvres qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus assumées,
oui.
quand la personne de qui on raconte l'histoire est impliquée. Là. Donc Fabiola, elle a fait la direction photo sur le film, puis elle s'est impliquée en montage dans toutes les étapes de création du film.
Et est-ce que c'était une première pour vous d'aller en Haïti, Brigitte?
Oui.
Fabiola aussi?
Exactement.
Qu'est-ce que vous...
En fait, moi, j'étais allée la chercher. En oui, 2000, le 24 juillet 2000. Mais j'ai pas pu rester dans le pays. J'ai pas pu rester là. Bon, c'est
ça,
le
vous le regrettez. Je le regrette dans
beaucoup.
Le documentaire.
Ouais, j'aurais aimé ça, connaître le pays avant de l'accueillir. Mm-hmm. Et donc là, on retournait ensemble, elle, après presque 20 ans. Et moi aussi, du même coup. En fait, je refaisais le voyage que j'avais fait quand je suis allée la chercher.
Et ça n'a pas été un voyage de tout repos, là, parce qu'il y a quand même des risques associés à ce voyage-là. Vous revenez avec quelle image, quelles réflexions, quelles impressions?
En fait, c'est surtout, comme vous dites, le risque, je pense qu'on l'a mesuré au retour, parce que sur le coup, on était sur l'adrénaline. Port-au-Prince, en fait, là où on s'en allait, et sous la tutelle des gangs. Donc, c'était très, très dangereux. Nous autres, on avait un policier en civil avec nous 24 heures sur 24 qui négociait nos passages, parce qu'à chaque fois qu'on sortait de l'hôtel pour aller rencontrer quelqu'un ou aller filmer, il fallait qu'au préalable, lui aille voir un responsable des gangs de chaque quartier qui paye pour qu'on puisse y aller. On était surveillés dans le camion. Justine et moi, sa sœur, on se cachait quand on était dans le trafic pour pas qu'ils voient qu'il y a des blancs. En fait, il fallait pas attirer l'attention.
Ouais.
Donc, on était vraiment en extrême vigilance. Mais c'est plus au retour, je vous dirais, qu'on a mesuré, qu'on a fait, oh là là, une chance que notre équipe haïtienne était très protectrice et très bonne parce qu'on n'a jamais senti de leur part une nervosité alors qu'ils étaient très nerveux pour nous.
Alors, lorsque vous étiez en Haïti, vous n'avez pas eu ce sentiment-là de peur, Fabiola?
Non, honnêtement, on dirait que peut-être l'énergie aussi, puis la naïveté aussi, comme je disais. Mm-hmm. Mais sinon, non, on dirait que tout s'est bien passé, puis justement, on était bien, l'équipe faisait en sorte qu'on se sente bien. Mais c'est sûr que des fois, le soir, on se dit « Ah oui, c'est vrai, on entend des coups de feu, ça sonne pas très loin ». Donc, ça nous remet un peu dans la réalité, mais sinon, on dirait que tout s'est vraiment bien passé, puis on était sur notre petit nuage aussi d'intensité.
Vous parliez de la question, qu'est-ce que ma vie aurait été si j'avais vécu en Haïti, si ma vie avait continué en Haïti. En tout cas, pour le conditionnel, là, je suis un petit peu mêlée dans ma tête parce oui. que quelquefois, les si ne mangent pas toujours les raies. Alors, votre vie, ça a été quoi les réponses que vous avez trouvées lorsque vous êtes allée en Haïti? Est-ce que vous avez trouvé des réponses, premièrement, sur qu'est-ce que votre vie aurait été?
Je pense pas que j'ai trouvé des réponses. Mais je pense que juste le fait de voir le pays en soi puis de me remettre un peu des images, pour moi, c'est déjà beaucoup, sans nécessairement, parce qu'après, c'est abstrait aussi comme question. Mais après avoir un peu ma famille biologique aussi, ils n'étaient pas nécessairement fortunés. Donc, c'est sûr que les voies sont un peu limitées dans ce que j'aurais pu devenir.
Oui, puis on voit beaucoup des jeunes filles. Donc, on voit que... En fait, l'éducation et le travail qui donne une autonomie financière aux femmes contribuent beaucoup à l'égalité et à l'épanouissement. Et puis, bon, mais malheureusement, dans plusieurs pays du monde, c'est pas les femmes n'ont pas accès à ça.
Mm-hmm. Donc, il y en a qui ont accepté de témoigner de leur réalité.
Ça, c'est formidable parce qu'elles ont été d'une vérité à visage découvert, ouais. nous dire des choses très personnelles.
Oui. On a peur pour elles.
Exactement. Ouais. Donc, elles ont été très dans la vulnérabilité. Puis elles se sont révélées à nous. Mm-hmm. Oui.
Parlez-nous des restes avec. Je ne connaissais pas ce mot-là.
Oui, ben en fait, c'est quelque chose qui est très tabou, en fait. Mais la diaspora ici haïtienne essaie vraiment de changer les choses parce que là-bas, ça fait partie, en fait, des mœurs. C'est que des familles, souvent en région rurale, vont envoyer leurs enfants à la ville pour qu'ils aient accès à l'éducation. Et comme il n'y a pas d'infrastructure comme ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre jeunesse ou il n'y a pas de foyer d'accueil comme on a ici, mm-hmm. Donc, ils envoient chez de la famille. Donc, souvent, tu vas aller chez une tante ou chez un oncle ou chez une grand-mère. Alors, ou des gens qu'on connaît et qui n'est pas nécessairement de la famille immédiate. Et ces gens-là vont dire « oui, oui, je vais la prendre, je vais l'envoyer à l'école », mais qui en font des esclaves domestiques.
C'est effrayant.
Et ça, c'est monnaie courante dans le pays. On parle de près de 400 000 enfants qui sont dans cette situation. Et donc, je sais qu'ici, en tout cas, j'avais entendu beaucoup de gens de la diaspora haïtienne dire que ça n'avait pas de bon sens, il fallait que ça change, mais ils n'ont pas de protection de la jeunesse comme on a ici. Donc, ces enfants se retrouvent là comme domestiques et souvent comme esclaves sexuels aussi. Et donc là, il y a des ONG qui essaient de venir en aide à ces enfants-là. Donc, les femmes se ramassent souvent quand elles ne sont pas capables de nourrir leur famille, bien, ils n'ont pas tant d'options que ça. Et ça, c'est un problème aussi. Donc, il y a les adoptions, il y a les restes avec. Donc, c'est quoi la solution? Parce qu'on ne vient pas en aide. En fait, les iniquités sont terribles.
Oui. C'est cliché de dire ça, mais quand on est dans le pays, quand on suit le film, on côtoie la beauté extraordinaire. Là, c'est luxuriant, des paysages colorés, magnifiques. Et aussi la misère à tout point de vue.
En fait, c'est le problème de l'urbanité. C'est le problème que tout le monde s'en va à Port-au-Prince parce qu'ils ont des terres. Le pays est magnifique. Et c'est ce que Fabiola a décidé. Puis ça vient d'elle. C'est qu'à un moment donné, elle m'a dit, je veux pas montrer juste la misère. Elle voulait pas que ce soit un film misérabiliste. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Montrer la beauté du pays aussi. Montrer la beauté de ces gens-là qui ont une résilience extraordinaire. C'est le pays le plus pauvre sur notre hémisphère. Mm-hmm. Et on les aide pas.
Ouais. Donc, on pense au tremblement de terre aussi. Là, ils s'en sont bien relevés malgré qu'ils sont encore à payer le prix de cette catastrophe.
Exact. Donc, on voulait montrer les deux côtés. Donc, effectivement, à Port-au-Prince, il y a beaucoup, beaucoup de misère, comme vous dites, et de pauvreté et de surpopulation dans cette ville. Mais à l'extérieur, c'est magnifique.
Oui. Avez-vous l'intention d'y retourner, Fabiola?
Peut-être pas tout de suite, vu que ça se passe pas super bien, mais c'est sûr que dans le futur, j'ai envie d'approfondir justement ma découverte, puis j'ai envie de... C'est sûr, en fait, oui.
Le film a été présenté en grande première mondiale à Cinémania. Il a été reçu de quelle façon?
Wow, au-delà de nos espérances.
Ah oui?
En fait, oui, parce que c'est drôle, quand on s'en allait vers le cinéma à Cinémania, Fabiola, dans l'auto, me dit... Mais ça va intéresser personne. Voyons, c'est notre histoire.
Vous pensez ça, Fabiola?
Oui, oui. Mais elle dit, voyons, elle dit, pourquoi on fait ça? Pourquoi on raconte ça? C'est comme si tout le coup, elle remettait tout en question. Et puis, la salle était pleine. Et là, on écoutait, nous autres, on a assisté à la projection pour voir les réactions des gens. Ça se passait super bien. Les gens riaient, pleuraient. On passe du rire aux larmes.
Oui, oui.
Parce que Fabiola, elle a de l'ironie, elle a beaucoup d'humour et sur sa propre histoire et beaucoup d'autodérision. Et même, et à la fin, quand elle a dit sa dernière phrase et que la citation est arrivée, les gens se sont levés spontanément. On a eu un standing ovation pendant le générique. Et là, on s'est regardé et on a fait « oui, oui, oui ».
Alors, le film intéresse plus que vous pensez les gens, là, Fabiola. Et on dit que le film évoque notre besoin de consolation et d'humanisme. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, de compassion et d'empathie. Et je pense que oui, c'est ça, l'humanisme. C'est les grands défis de notre siècle, hein? Parce qu'il va y avoir tellement de migration dans le monde. Et à un moment, on va être confronté à ça. Si ça ne passe pas par l'adoption, ça va être autre chose. Mais c'est sûr que les gens vont bouger beaucoup, beaucoup là, dans les années à venir. Qu'on pense à cause du climat, à cause des guerres, avec tout ça. Je veux dire, il faut falloir qu'on s'ouvre à l'autre.
Fabiola, est-ce que vous aimez être québécoise? Aimez-vous vivre au Québec, au Canada?
Oui, c'est sûr que c'est tout ce que j'ai connu, donc c'est sûr que j'aime ça, puis les gens sont super gentils et accueillants.
Avez-vous d'autres projets cinéma avec votre mère ou avec d'autres personnes?
Pour l'instant, il n'y a rien de décidé et tout, mais c'est sûr qu'il y aura d'autres projets, c'est
sûr. Oui. Et j'imagine que vous êtes aussi une fan de votre mère, Brigitte Poupard. Là,
oui,
parce
la numéro un, fan numéro un.
Et Brigitte, à travers tes yeux, qu'est-ce qui vous occupe? Parce que vous êtes comédienne, metteur en scène et réalisatrice. Oui. D'ailleurs, votre film le plus récent, c'est une fiction.
Oui, Où vont les âmes.
Oui, mais pas le plus récent, l'avant-dernier.
Exactement, qui a été présenté aussi à Cinémania et qui a fait le tour des ciné-clubs au Québec.
Qui a reçu un accueil extraordinaire.
Très
chaleureux. Il faudrait que les gens le voient. Là.
Absolument. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est dommage, en fait, c'est qu'on fait des beaux films au Québec, mais malheureusement, on a un système de distribution qui ne permet pas aux gens de voir nos films.
C'est très dommage. On en parle justement dans l'actualité de ces temps-ci, là, comme quoi le public est de moins en moins au rendez-vous.
Et puis, il faudrait, parce que ma fête, c'est l'accessibilité, alors. C'est qu'on a fermé beaucoup de salles en région.
Oui,
il y a
c'est
pas
vrai.
Il n'y a pas d'accès, en fait.
Les gens veulent, mais ils ne peuvent pas.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas de lieu de diffusion.
Exactement.
Ouais,
on
ne
peut pas juste jurer que par les plateformes, là. Il faut qu'on... Parce que sortir, le fait de sortir et d'aller dans une salle et de vibrer avec plein d'autres mondes ensemble,
c'est une toute autre expérience.
C'est une autre expérience et c'est une catharsis sociale et c'est important. C'est très important parce que c'est un dialogue entre nous, parce que et ça brise la solitude. Et je trouve que ça, c'est important aussi, parce que sinon, on est... je me rends compte, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, mais ça contribue à ça, c'est-à-dire qu'on s'isole de plus en plus.
Oui, c'est bien vrai. Alors, ne nous isolons pas et allons voir au cinéma à travers tes yeux. Et déjà, la réponse est excellente. Là.
Absolument. À Québec, c'était plein. Là, les billets sont c'est complet vendredi au Beaubien. Donc, il faut y aller parce que la première fin de semaine est cruciale pour la durée d'un film en salle.
Oui. Ouais. Est-ce que vous allez participer à des conversations après les projections? Oui.
Absolument.
Ah,
nous,
oui?
On adore ça. On adore ça, oui. D'ailleurs, il y a une séance spéciale le 10 février qui va parler justement de la quête identitaire de l'adoption avec quelqu'un qui, j'ai oublié l'organisme pour qui il travaille, mais lui, il a été adopté aussi en Haïti dans les années 80. Alors, on parle beaucoup de ça, là, l'évolution de l'adoption internationale.
Alors, si on va voir toutes les dates...
Sur le site de la Maison 4 tiers, il y a toutes les dates, les sorties et les discussions.
On parlait donc avec Brigitte Poupard et Fabiola Pierre-Monti, qui sont mère et fille, et qui racontent cette très belle histoire à travers ce film qui s'intitule « À travers tes yeux », qui prend l'affiche dès demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
la pièce Haïti du groupe Arcade Fire.
Cette semaine, j'ai vu deux pièces qui m'ont mise KO, mais pas pour les mêmes raisons, pas de la même façon. Une qui se passe au Rideau Vert et puis une autre au Théâtre Denise Pelletier. Au Rideau Vert, d'abord, j'ai vu « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay, un grand classique de 1971. Une pièce tellement bien écrite qui a été mise en scène par Henri Chassé et qui met en vedette Madeleine Péloquin, Michel Charette, Rosanne Derry, Catherine Paquin-Béchard qui sont tous les quatre sur la scène pendant toute l'heure 20 que dure la pièce. Une pièce qui se passe dans le même espace, mais pas dans le même temps. On assiste à deux conversations. Une première entre Marie-Lou et Léopold, un couple marié qui sont parents de trois enfants, deux filles et un tout petit garçon, Roger. Un couple qui se déchire, un couple enragé, frustré. Et puis, la deuxième conversation, c'est celle qui se passe entre Manon et Carmen, les deux sœurs, filles de Marie-Lou et de Léopold. Une qui reste dans le passé, qui est resté encrouté dans le passé, dans l'esprit religieux, et puis l'autre qui s'est libéré du joug familial en devenant une chanteuse country. Alors, je dirais que les dialogues s'enchevêtrent, les dialogues se font écho. On a l'impression d'être devant un quatuor théâtral. Vous le savez, c'est presque cliché de le dire, mais avec Michel Tremblay, on est toujours dans quelque chose de très musical. Il a le sens du rythme, il a le sens du punch, il a le sens de la réplique qui nous rentre dedans. Les comédiens s'échangent les répliques avec art et la charge émotive est bouleversante. On est dans une pièce noire foncée et on en sort de là pas indemne, je dirais. Ça se passe au Rideau Vert, il y a des supplémentaires, c'est un succès. Et c'est tant mieux. Et puis, une autre pièce qui n'arrête pas de jouer et qui va rejouer encore une fois, je pensais au Rocky Horror Picture Show en assistant à cette pièce. Je n'avais pas trop d'attente, mais il y a un délire sur la scène autant que dans la salle. Et c'est quelque chose d'extrêmement original. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette pièce. Agamemnon in the Ring, une guerre de trois contre trois, écrite par Hilaire Saint-Laurent, qu'on recevait tout récemment en entrevue, homme absolument gentil, sympathique et qui a un talent fou, qu'on trouve aussi sur la scène. Il y a toute une distribution, ils sont une dizaine. Et Hilaire Saint-Laurent, un auteur qui a de l'imagination, qui laisse pantois, on se dit, ça n'arrête pas les bonnes idées. On est complètement séduit tout le temps par toute cette belle inventivité. Alors, je ne veux pas trop vous raconter l'histoire parce que le plaisir, c'est justement de découvrir toutes ces belles idées au fur et à mesure que l'histoire avance. Hilaire Saint-Laurent revisite un classique et il le transpose dans une arène de lutte. À un moment donné, il y a un gala de lutte et on prend part au gala. On se met à crier pour la personne la personne de notre choix, celle qu'on aimerait voir triompher, et on se met à crier Achille, Achille. Alors donc c'est Agamemnon Bouchard et toute son équipée folle qui nous transpose dans ce milieu absolument jouissif. Alors je pense qu'il faut voir cette pièce-là. C'est un grand classique, un classique d'un classique, et ça s'intitule Agamemnon in the Ring, une guerre de trois contre trois. C'est présenté au Théâtre Denise Pelletier, qui était plein à craquer. Les billets s'envolent vite, on peut comprendre pourquoi. Là, le buzz est parti depuis quelques années. On a commencé au Théâtre Écurie, on a joué cette pièce-là. Je ne sais pas comment ils sont arrivés, parce que le plateau est tellement imposant. Ils ont déjà joué cette pièce-là au Théâtre Catsou. Ils ont joué aussi à travers le Québec. C'est un grand succès et il faut voir ça. Merci beaucoup d'avoir été là ici, Hélène Denis. On se retrouve très bientôt.